Bonjour, c'est Akhenaton, vous écoutez Pop Pop Pop.
Salut à tous, c'est Shuriken, vous écoutez Pop Pop Pop. Et Pop Pop Pop, c'est parti.
Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Notre invité d'aujourd'hui, Jean Humbert, et effectivement nous sommes le 9 décembre et il pleut, soit un jour Humbert et un jour où l'Humbert est de rigueur, a un défaut majeur. Tout le monde l'aime et tout le monde se bat pour goûter sa cuisine. S'il avait eu la vanité de faire signer un livre d'or dans l'un de ses restaurants, on aurait pu y trouver pêle-mêle les éloges signés du gratin. C'est normal pour un cuisinier qui chante et qui danse. Cela va de Robert De Niro à Pharrell Williams en passant par Jay-Z, Johnny, Beyoncé ou Madonna et Kristen Stewart. On soulignera au passage que tous les artistes que je viens de citer sont toujours en vie et même en pleine forme, à l'exclusion peut-être de Johnny, même s'il n'a été établi aucun lien de cause à effet fait entre sa disparition et la cuisine de Jean Humbert. Certes, comme tout le monde l'aime, il se trouve aussi des gens pour l'aimer moins, puisque comme l'on sait, le succès agace. Des confrères envieux se consolent en disant par exemple qu'il vaut mieux être la star des cuisiniers que le cuisinier des stars. Et à ces esprits chagrins, je répondrai que l'un n'exclut pas l'autre et que Jean Humbert a encore toute la vie devant lui. Car si la valeur n'attend pas le nombre des années, rien n'oblige à attendre le nombre en question ou de devenir une star pour avaler sa cuisine à lui. Et cela, croyez-moi, personne ne songera à s'en plaindre. Jean Humbert est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. De
bonjour Jean Humbert.
Bonjour, merci pour cette présentation.
Bienvenue dans notre studio. Merci mamie pour les recettes. Alors non, ce n'est pas une phrase dénuée de sens que je viens de prononcer, mais le nom de votre nouveau livre, livre grâce auquel vous nous apprenez que c'est donc dans les vieux pots, je ne parle pas de votre grand-mère bien sûr, qu'on fait les meilleures soupes de pop culture. À mes côtés, ma mamie ne va à moi.
Sérieux? Enfin, sérieux, mamie?
Mamie Inter, rapport à la radio, Charline Roux.
Mamie? Sérieux? Oui, mamie, mais mamie, bonjour. Elle sait prononcer correctement le nom du mari de Beyoncé.
C'est
bonjour
quoi?
Antoine, bonjour c'est... Jean.
Allez-y, dites-le.
Jay-Z,
bah, qu'est-ce que j'ai dit? Au menu également de Pop Pop Pop. L'auteur des recettes légendaires de Dragon Ball Z et le créateur de la chaîne YouTube GastronoGeek, Thibaut Villanova, viendra nous rejoindre tout à l'heure pour parler de cuisine de l'imaginaire. Mais avant ça, mon cher Jean Humbert, ici il existe une question encore plus violente que Maïté tentant de zigouiller une anguille.
Ah oui, hop. Vous l'assommez un petit coup là pour l'envers.
Non, c'est rien. Voilà.
Et cette question c'est...
Suspense.
Jean Humbert, c'est quoi pour vous la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses jeunisées, imbertatives, cuisineuses et même ratatouillantes parfois. Et parmi mes préférées, il y a celle d'une de vos clientes, Émilie enfin bref, une de vos clientes, écoutez.
What is pop culture?
It's funny because I think I spent a very early part of my life really rejecting pop culture.
Au début, quand j'étais jeune, je crois que je rejetais la pop culture. Mes parents étaient des enfants des années 60, donc je m'en méfiais un petit peu, je voulais m'en échapper. Ce n'était pas mon monde, je pensais, mais en grandissant, en vieillissant, j'en suis venue à vraiment l'apprécier. Je trouve ça vraiment intéressant, passionnant. On peut tellement apprendre en observant la scène de la pop culture.
Émilie Ratajkowski. Redites-le-moi, elle est son nom.
Ratajkowski. Mais elle adore la mousse au chocolat chez mamie, par exemple.
Elle adore la mousse au chocolat. Vous n'avez pas le droit de faire moins long dans votre définition. Donc, on vous écoute, Jean Humbert. Qu'est-ce que c'est la pop culture pour vous?
Ouais, c'est beaucoup les... Bon, j'étais pas au courant de la question, en vrai. Donc là, non, c'est beaucoup les artistes avec qui j'ai la chance d'être. Parce que quand je pense à pop, je pense à Pharrell, le premier. J'ai un restaurant avec lui à Miami. J'étais avec lui encore hier. Et même JR, par exemple. Il me fait beaucoup penser ces artistes avec qui la chance j'ai la chance de collaborer, ils m'emmènent dans leurs univers. Quand on est à Art Basel, dans une foire d'art contemporain, qui a une banane accrochée sur un mur, qui a plein de choses, quand JR, ils m'emmènent rencontrer des artistes, Léos Gemeos, des artistes brésiliens, tout ça, pour moi, la musique, l'art, ces gens-là sont pour moi la pop culture.
Donc le croisement des cultures, si je comprends bien.
Oui,
okay.
Un peu.
Ça vous convient, Charline, comme définition? Mais tout vous convient toujours, mamie Charline.
Vous allez rire le jour où je vais vous dire, ah non, pas du tout, oui, je trouve ça vraiment étonné. Super nul.
Bon, alors la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Everything I Wanted, c'est un morceau de Billie Eilish.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me, and you say, as long as I'm here.
Everything I Wanted, tout ce que j'ai toujours voulu. Hein. Corrigez-moi si je me trompe, Charline.
Non, c'est parfait.
Merci. C'est signé Billie Eilish, c'est extrait de l'album éponyme. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un chef, et on sait grâce à Jacques Chirac qu'un chef, c'est fait pour cheffer. Mais qui est donc ce chef qui sait cheffer et qui pèse dans la pop culture? Réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, j'en sais votre portrait bien sûr, mais
à base de pop, 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 pop,
et c'est signé Charlie Mamie Roux.
Arrêtez de m'appeler Mamie maintenant. Aujourd'hui, un invité qui me donne envie d'utiliser cette expression su-employée et de préférence à mauvais escient, un invité qui casse les codes. Tout tous les codes. Enfin, en tout cas, mes images d'Épinal perso qui voulait qu'un cuistot soit giron, façon Gusto dans Ratatouille, hein, ou à minima muni d'un accent méridional. Alors lui dit gourmand et pas gourmand, et il me semble avoir une ligne à arpenter les catwalks, ambiance le gras c'est la vie, mais des autres. D'ailleurs, quand je l'ai découvert, hein, comme tout le monde, dans le concours Top Chef, dont je le confesse, je ne rate aucune édition, tous les autres proposaient des plats dont le volume et la construction dépassaient les lois de la physique et du bon goût, alors que lui envoyait des plats colorés, végétaux et de type carpacciesque, plus à plat. Pas le genre à draguer avec de la verrine. Enfin, plus du genre à faire rimer légumes et fruits avec sexy. Ou encore cuisine moderne avec mamie, ce qu'il fait avec brio, en livre et en resto. Quand la cuisine est bonne, 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 peu importe, qu'on s'appelle Farrell, Bob De Niro ou Beyoncé, l'important c'est qu'à un moment, eh ben, il y a du céleri rémoulade. Alors oui, ça rime pas, mais ça n'empêche que c'est la vérité.
Eh oui, n'empêche que c'est Merci. La vérité. Jean-Humbert, vous êtes d'accord avec le chef Gusto quand il dit...
C'est la vérité, tout le monde peut cuisiner.
Oui, c'est cliché, mais oui.
Oui,
en vrai, dans ce livre, ce sont des recettes de faire une carotte râpée, faire un céleri rémoulade, comme vous avez dit, c'est quand même pas technique. Au contraire, il faut juste avoir la bonne astuce, le bon coup de main. Et plus on cuisine, meilleur on est quand même. Donc il y a un moment, il faut bien se lancer.
Bien. Jean-Humbert, généralement, c'est vous qui utilisez les mixeurs, mais aujourd'hui, c'est moi. Et pour vous faire passer dedans, parce que c'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte pour le livre. Votre choix s'est porté sur les aventures de Tintin, soit l'alternative européenne à tous les super-héros ricains en collant moule burne. Charline, je ne vous ferai pas l'injure de nous de vous demander qui est Tintin, mais plutôt quel est votre album préféré,
tiens. Tintin Infinity War. En vrai, le trésor de Rackham le Rouge, parce que si ma mémoire ne me trahit pas, c'est l'arrivée du professeur Tournesol.
Bien. Ouais. Jean-Humbert, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques bulles?
Oui. Alors, on a marché sur la Lune, donc je décris quand même, parce que les Dupont sont sur la Lune. Mmh. Hein, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Des traces de pas. Il y a d'autres hommes que nous sur la Lune. Donc là, il y a Tournesol qui est avec le micro. Allô, allô, ici Dupont, t'es comme Théophile, allô, j'appelle Fusée Lunaire, allô, allô, Tournesol, je vous écoute.
C'est très abstrait, écoutez.
Pardon. C'est bien.
Donc
non,
c'est...
mais j'ai toujours besoin d'une BD de Tintin avec moi. C'est mon côté enfant. J'ai besoin de me souvenir de quand je lisais ça, tout bébé. Même quand je prends, tout enfant. Mais même quand je prends l'avion et que je vais je sais pas où, je prends toujours une BD à Roissy et je l'emmène avec moi et voilà.
Prenez toujours votre Tintin avec vous.
Toujours mon Tintin avec moi.
Et jamais Milou.
Non.
C'est étrange. Tintin a une houppette. Vous avez ce qu'il n'est pas exagéré de qualifier de choucroute sur la tête. Ce qui explique peut-être d'ailleurs votre vocation de cuisinier. La coupe de Tintin est-elle pour quelque chose dans votre choix littéraire?
Non. Ma coupe, c'est juste que je m'en moque, en vrai. Mmh. Je ne sais pas, j'ai juste... Là, on m'a dit, j'y suis allé chez le coiffeur il y a une semaine, mais il faut que t'ailles chez le coiffeur. Bon, personne n'a vu que j'y étais allé. Mais sinon, moi, j'avais dit que j'y allais pas avant l'année prochaine, en juillet, mais bon.
Vous avez une croissance rapide, ça rend les gens jaloux. C'est voilà. Tout.
Et une croissance plutôt verticale.
Oui. Hein? Mais par contre, je mets pas de gel. Mais par contre, quand on est dans la cuisine, il y a beaucoup les jus, les machins. On dit toujours mes cheveux, ils sentent la langoustine. Bon, c'est un peu, c'est pas très glam, mais c'est la vie de cuisinier. Voilà.
Jean-Humbert, pour le film, vous avez choisi Casino, un grand score. S'il en est, et un film qui a également le mérite d'avoir remis en selle cette magnifique actrice qui est Sharon Stone. Mais Charline, dites-nous, est-ce que c'est le seul mérite du film?
Non, mais elle reste quand même la raison numéro un pour moi d'aimer ce film, et s'ajoute à ça la réalisation virtuose de Scorsese et au tempo dément de De Niro et Pesci, dont il se murmure d'ailleurs que la majorité de leurs dialogues dans le film ont été improvisés.
Ah oui. J'étais la crème des handicapeurs. J'avais tellement bien pigé le truc qu'on m'a donné le paradis sur Terre. Le Tangiers.
Nicky, tu vois ce type? Il va nous faire gagner beaucoup de fric.
Ah ouais?
Alors faut pas que tu le quittes des yeux.
Je veux me fixer, fonder une famille.
Et c'est sur moi que tu comptes?
Ils avaient tout. C'est eux qui menaient la danse. Et c'était le paradis. Tant que ça a duré. Tranquille!
Et bien entendu, c'est la VF qu'on vient d'écouter. Donc, De Niro en VF. De Niro, votre poteau. C'est pas étrange de dire poteau et De Niro dans la même phrase?
Si. En fait, si j'ai dit ce film, c'est parce que c'est une histoire. C'est-à-dire quand De Niro est débarqué dans mon resto pour la première fois, c'était JR qui l'avait emmené à minuit. J'étais même pas au courant qu'il arrivait. Et ben, j'arrêtais pas de penser que c'était Sam de Casino qui débarquait dans le resto. J'avais beaucoup de mal. En fait, De Niro, quand on le rencontre pour de vrai, on a beaucoup de mal à se détacher du personnage dans les films. On a l'impression qu'il va y avoir une tuerie quand il commande une farfalle au fin fond du resto. On a l'impression d'être dans Le Parrain 2. Mmh. Enfin voilà. Après, Sharon Stone, j'adore la détester dans le film. C'est-à-dire, je la déteste vraiment en vrai. Elle fout tout en l'air. Ça m'énerve. Mais voilà, non, j'ai eu la chance de beaucoup cuisiner pour De Niro sur Ellis Island, où personne n'avait cuisiné depuis la Seconde Guerre mondiale, sous la neige, où il faisait un tournage. Enfin, c'est une légende, là, on peut le dire quand même.
Votre vie est un roman, Jean Humbert. Jean Humbert, on va parler de série maintenant. Pour la série, vous avez choisi l'impair le plus connu de la pop culture, à savoir Columbo. Alors, Columbo est un lieutenant de police, un poulet, quoi, et il porte un jean Humbert. Il porte un Jean Humbert. Non, je
veux. Tu auras tout tenté. Non, explique-toi-la. Si, il faut s'apesantir sur celle-là, elle est bien. Allons-y.
Columbo est un lieutenant de police, un poulet, qui porte un Humbert. Ça y est, j'ai tout recollé. C'est par ailleurs un plat antillais réputé. Est-ce que c'est étonnant, Charline, que ce soit le choix du chef que nous recevons? C'est à la gourmette, là, que je m'adresse.
Non, car le lieutenant et Jean partagent la même désinvolture hirsute et la même efficacité dans leurs tâches respectives. Je ne sais pas, en revanche, si, comme le policier, Jean casse des œufs durs n'importe où et parle la bouche pleine.
Et il aime les bonnes choses.
Have some. Oh, that's good. Yeah, that's really good.
Yeah?
That's delicious.
It ought to be. Costs $80 a jar.
$80?
Yeah.
Oh. Happens to got $15 worth right in my mouth. We better get out of here. We're gonna get arrested.
Alors pourquoi ce poulet qui aime les bonnes choses, Jean Humbert?
Parce que j'ai besoin de petits moments dans la journée. Par exemple, si j'ai 15 minutes où je vais rentrer chez moi, je vais mettre un bout d'épisode de Columbo dans ma chambre.
Ah oui.
Et couper mon tel. Ou 30 minutes. Parce que je sais pas, ça me ressource, ça me rappelle quand j'étais chez mon grand-père, quand j'étais petit, qui regardait ça l'après-midi. J'ai besoin d'avoir des espèces d'accroches comme ça pour me... Non pas que j'ai pas de racines, parce que je retourne souvent en Bretagne pour mes racines, mais d'avoir comme des pieds sur terre, de me dire, voilà, je suis dans mon lit, je regarde Columbo, mon téléphone, il n'existe pas, et voilà, je suis bien. Je suis bien avec lui.
Des choix qui sont très liés à l'enfance, hein. Tintin, oui. Columbo, vous avez besoin de...
J'ai besoin ou c'est naturel, c'est pas, je sais pas si c'est un besoin, mais en tous les cas, c'est moi.
Mais ça passait sur Brest TV en plus, je crois.
Oui, mais j'adore aussi, même sur Brest TV, le samedi soir, pendant qu'on est en service au resto, j'adore le mettre. Mes équipes, elles me filment tout le temps dans la cuisine en train de regarder Columbo pendant le service.
Bien, Jean Humbert, terminons cette pop liste avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci.
Where the sun is always out and you never get old, and the champagne's always cold and the music's always good, and the pretty girls just happen to stop by in the hood and they have their pretty ass.
Forever Young de Jay-Z ou Jay-Z comme dit Charline. Mais non. Attendez, Jay-Z c'est pas le client de la table 14 dans votre restaurant là, Jean Humbert?
Non, mais cette chanson, il finit tous ses concerts par cette chanson. Donc, toutes les fois où j'étais en tournée avec eux, même au Stade de France, il y a plusieurs fois, voilà, ça me fait penser à des moments où vraiment j'ai le cœur qui bat très très vite. Je suis comme un enfant, même là, dans ces moments-là. Enfin, je suis blasé de rien déjà, premier point, mais c'est vrai que quand je suis avec eux, c'est souvent cette chanson qui marque le moment où ils vont sortir de scène et donc venir dans la salle où j'ai fait le repas.
En somme, vous êtes jeune pour toujours.
Excellent, comme la chanson d'Alphaville, voilà.
Alors je résume Tintin, Casino, Columbo et Jay-Z, et je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça donne ça.
J'étais la crème des handicapeurs.
Oh, that's good.
J'avais tellement bien pigé le truc qu'on m'a donné le paradis sur Terre.
Ah, that's really good.
Yeah. Le Tangiers.
Allô, ici Dupont. J'appelle Fusée Lunaire. Allô, Tournesol, je vous écoute.
Je vais fixer, fonder une famille.
Et c'est sur moi que tu comptes.
Et c'était le paradis. Donc ça a duré.
C'est vous ce velouté de pop culture, Jean Humbert?
Ouais, j'ai adoré. En effet, le répondeur du téléphone du resto, ça peut être pas mal.
On vous l'offre avec plaisir. Bien, à suivre dans Pop Pop Pop. Pour la 8, deux The Mimosa, une poule au pot, un bœuf bourguignon et un magret aux abricots, ce sera servi juste après Epsheet, le morceau de vos clients Jay-Z et Beyoncé.
Jumping up.
my check. Or pay me in equity.
Pay me in equity.
Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, bad bitch. We living lavish, lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Give me the ball, take a top shift. Call my girls and put them all on the spaceship. Hang one night with him, say I'll make you famous. Hey. Have you ever seen the stage going ape shit? Step my money fast and go.
Fucking coop, finna pull up in the zoo. I'm like, Chief, keep me Rafiki, who been lying king to you? Pocket watch it like kangaroos. Tell these clowns we ain't amused. Nana clips for that monkey business. 4-5 got changed for you. Motorcades when we came through. Presidential with the planes too. Went better get you with the residential. Undefeated with the cane too. I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you. Every night we in the end zone. Tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking zoo. Stage diving in a pool of people. Ran through Liverpool like a fucking beetle. Smoke Gorilla Glue like it's fucking legal. Tell the Grammys, fuck that 0 for 8 shit. Have you ever seen a crowd going 8 shit?
Change. I don't give a damn about the fame.
Nope.
GA plane, Alexander Wayne.
Woo.
She a thought that you claim. Can be tapping my rain. Oh. And I'm popping my bitches off, popping. We go to the dealer and cop it off. Sipping my favorite alcohol. Got me so lit, I need Tylenol. All of my people are free, I'm on. I feel no one wanna see the stars. Sending the missiles off. Tricking my inhibitions off. 250 for the rich and meal. Yeah, yeah. Live in the field. My body made jiggle go near. Man, my mama, my lord, my shield. Look at my jewelry, I'm lethal. These diamonds on me, they see. I'm a Martian, they wishing they equal. I got M's left at back of VV, so give me the ball, give me the ball. Take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night with him, say I'll make you famous. Have you ever seen a crowd going ape shit?
Antoine de Gaulle
et Mamie Roux. Top Chef, Mamie et Instagram sont les premiers résultats qui tombent quand on tape votre nom sur Google, Jean Imbert. Mais avant de papoter popote, parlons de l'événement gastronomique du week-end. La banane la plus chère du monde, celle de Maurizio Catalan, exposée à la Foire d'art contemporain de Miami, où vous étiez, vendue pour 120 000 dollars et consommée par un visiteur se déclarant lui-même artiste et qui plus est un artiste affamé et présentant son geste comme une œuvre d'art à son tour. Alors Jean, de l'art ou du cochon?
Oula, les deux, c'est ça monte. Moi, j'y étais, je l'ai vu en vrai la banane et je l'ai vu plusieurs jours, donc je l'ai vu en train de pourrir. Donc je... c'est vrai. Donc oui, non, on a bien rigolé en voyant ça. C'est un coup de maître, un peu, ouais. Je trouve, d'un artiste contemporain quand même qui a fait des pièces iconiques. Mmh. Donc j'aime bien ce cliché de dire voilà, l'art contemporain, si j'ai envie, c'est une banane accrochée au mur et tu la payes 120 000 et c'est tout. Voilà.
N'est-ce pas la banane du siècle, pour reprendre les paroles du philosophe Bouba?
C'est pas loin.
Ouais,
un peu, ouais.
Est-ce que la cuisine, c'est de l'art?
Non. Non, pardon d'une réponse assez cash, mais non, je ne vous estime pas comme des artistes. Un artiste, la cuisine, c'est trop éphémère pour moi, c'est trop instantané, trop... je sais pas, il y a un côté un peu...
La banane aussi, elle est instantanée.
Oui, la banane. Le seul côté art qu'il peut avoir, c'est par exemple si on a une fulgurance sur une idée parfois. Un chef va créer une idée, il va créer un jour un moelleux au chocolat, une purée, une blanquette de veau, il y a longtemps. Mais il n'y a pas le côté artiste. J'ai du mal à... Non. On est des artisans en plus.
Bien, passons aux choses sérieuses. Votre actualité, Jean Humbert, c'est un livre de recettes qui a pour titre « Merci Mamie pour les recettes » et dans lequel vous remerciez donc Mamie pour ses recettes. Jusque-là, j'ai tout bon.
Oui.
D'accord. Mamie, c'est votre grand-mère et non pas Charline Roux. Et ses recettes, ce sont elles qui ont éveillé votre goût pour la cuisine.
Oui. Elle est... Oui, tous les dimanches que j'ai passé chez elle, en train de la voir cuisiner, en train de voir réunir les gens qu'elle aimait autour de la table, la famille, les amis, c'est clairement ça qui m'a donné envie de faire la cuisine, mais je le savais pas. Je commence à le comprendre que maintenant. C'est parce que j'y retourne et que la vie passe. Ma grand-mère, elle a 93 ans. Je me rends compte qu'en fait, chaque dimanche est devenu un moment très précieux. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre, pour marquer l'histoire.
Et lui rendre hommage.
Oui. C'est pas hommage, j'ai du mal avec le mot, parce qu'on a l'impression qu'hommage, c'est quelque chose de posthume.
Non, mais hommage, c'est
la
hommage
transmission.
Une certaine idée de la transmission et de la cuisine.
Et c'est une certaine idée de la cuisine. C'est-à-dire de se dire qu'en fait, c'est familial. C'est quelque chose où on achète des produits frais, on est avec sa famille, sa petite amie, on cuisine et on mange. C'est quand même quelque chose de très beau, moi, je trouve.
Et est-ce que c'est elle qui vous a donné le goût de la cuisine salée, qui vous a appris à cuisiner salée? Parce que j'ai lu que quand vous étiez minot, contrairement aux autres enfants, les gâteaux, c'était pas du tout votre truc. Alors qu'a priori, les enfants commencent toujours par de la pâtisserie.
Bah souvent, ceux qui commencent par de la pâtisserie finissent pas cuisiniers parce que il y a un truc très voilà, on va faire un gâteau au chocolat, ça va plaire
yaourt,
aux copains. Mais moi, au gâteau yaourt, moi quand j'avais 10 ans, je commençais par les carrés de veau, j'attaquais des rognons, tout ça, j'étais dans le dur. Hein,
les rognons à 10 ans, c'est dur.
Oui, on a toujours été plus salé. De toute manière, ma grand-mère, elle aime bien les desserts, mais c'était surtout les produits frais. En fait, j'étais passionné de me dire, bon, la tomate, je vais sur le marché, je la touche, le poisson, il vient d'être pêché, je connais le pêcheur. Il y avait quelque chose d'un rapport aux produits frais à la saison qui était très important chez moi, même ado, alors que c'était pas du tout ado. Moi, je m'occupais plus des produits frais que de sortir avec une fille, donc j'étais vraiment différent.
Ouais, il y a des jeunes filles qui peuvent être des produits frais aussi. Alors, c'est aussi un hommage que vous... Mais regardez pas comme ça, vous.
Non, rien. Je ne relève même pas.
Vous livrez à la cuisine de terroir, aux recettes de famille, tout à fait à rebours des tendances de ces dernières années, hein, d'une gastronomie expérimentale, fusionnelle, comme on dit, qui mélange les cuisines du monde entier. C'est le genre de doudou dont on a besoin en ce moment.
Mais Mamie, elle n'est pas fusion, mais par contre, elle est très pop. Je reviens à la question des débuts, je la trouve hyper moderne dans sa façon d'agir, sans même le savoir. Évidemment que c'est réconfortant de se dire qu'on va manger une bonne blanquette de veau, une belle tomate farcie ou des beaux œufs à la neige. Mais il y a un côté très moderne finalement, parce que Mamie, elle mange pas d'avocat, elle mange pas de poupe, elle est dans la réalité de aller au marché, cuisiner des produits frais. Pour elle, tout est bio, elle le sait même pas si elle achète quelque chose de pas bio, parce que historiquement, une grand-mère achetait que des produits de saison, frais et bio. Enfin bio.
Et la question se posait
sans produit à l'époque, la question se posait pas. Et donc elle est restée dans cet ancrage qui revient et que pour moi est en vrai, vous m'avez dit juste avant l'émission que c'était toutes les recettes que vous aimez, c'est comme moi, c'est toutes les recettes que j'aime, c'est toutes les recettes que j'aimerais manger pour toujours.
Et est-ce que la cuisine dite ménagère peut être gastronomique?
Oui, franchement, clairement. En fait, justement, j'aime pas ce que vous avez dit, Antoine, sur la cuisine fusion. Par exemple, si on commande une blanquette de veau, on n'a pas envie que ce soit un steak de riz avec une émulsion de jus et un truc en carpaccio de veau, voilà, et du kombawa, ce truc et un peu de vanille pour le style. Non, on a envie de la sérieuse blanquette de veau. Même si on commande une mousse au chocolat, un truc bateau, on a envie que ce soit la vraie mousse, un peu ratée avec des morceaux de blanc, limite des morceaux de coquille ou un cheveu de mamie, mais on a envie que ce soit. Mais c'est vrai. Moi, j'adore trouver un cheveu de ma grand-mère dans un plat.
Préciser que ce n'est pas ce que vous servez au restaurant.
Non, bien sûr, il n'y a pas de cheveux au restaurant.
Mamie a autant de cheveux que vous?
Non, mais il y a souvent un cheveu dans une salade, on adore.
Et remarquez,
on rigole.
Et encore, vous ne connaissez pas la cantine de France Inter. Alors, la différence notable de cette cuisine, oui, il y a des perruques parfois, c'est qu'elles suivaient les saisons, comme vous venez de dire à l'instant. Et on parle de cette époque, les années 80, où tous les produits n'étaient pas à disposition comme ils le sont aujourd'hui. Ce que vous conseillez donc en filigrane, c'est de revenir à une consommation raisonnée.
Oui, mais je suis pas dans le « c'était mieux avant ». En vrai, c'est beaucoup comme ça maintenant, dans beaucoup de choses, pas que dans mon métier. C'est « ah ouais, c'était incroyable dans les années je sais pas quoi, on avait que des petits producteurs ». Non, il faut vivre avec son temps. Moi, je cherche pas à opposer les grandes surfaces avec le petit producteur de ferme d'avenir que j'adore. Je pense bien manger, c'est pour tout le monde. Donc tout le monde, et chaque achat est un vote. Donc chaque personne qui décide d'acheter un produit de saison, il décide de voter pour un agriculteur français, il décide de voter pour quelque chose peut-être de local à côté de chez lui. Donc voilà, chaque personne peut s'engager. On n'est pas obligé d'attendre que le gouvernement ou je sais pas quel industriel. Voilà, on peut y aller soi-même.
Mais vous êtes d'accord quand même pour dire que l'accès aux produits de saison, aux produits de qualité, on n'est pas tous égaux devant ça.
C'est pour ça que je pense que les grandes surfaces, etc., ont aussi un gros pouvoir parce qu'ils sont accessibles, entre guillemets. On n'a pas tous le petit marchand de chèvres à côté de chez nous qui va nous faire... Non, c'est vrai, on n'est pas tous égaux. Par contre, si on veut faire attention, on peut faire. Je trouve qu'on a les moyens de faire attention à ce qu'on mange en France.
Exemple concret, cas pratique, votre plat de saison préféré et son degré de difficulté.
Là, aujourd'hui, là,
ouais.
Des coquilles Saint-Jacques de Bretagne avec un écrasé de potiron. Okay. Parce que voilà, on est en pleine saison de la Saint-Jacques, parce que les saisons, c'est pas que les fruits et légumes, c'est aussi poisson, viande, fromage. C'est accessible, même si c'est pas si donné que ça, mais ça reste accessible. Potiron, il y en a partout. Même si quelqu'un, là, si des gens nous écoutent à la campagne, planter des graines de potiron, vous allez en avoir, c'est magnifique, ça pousse tout seul. Enfin, voilà, et puis ça coûte pas cher. Chou-fleur, sinon. Magnifique, une soupe de chou-fleur, là, en ce moment.
Ça vous arrive souvent d'écraser des potirons?
Non. Non, mais d'écraser à la fourchette. Non,
vous êtes prudent au volant, j'espère.
Ah oui, pardon.
Qu'est-ce qu'il y a,
mais rien, je vous regarde, j'écoute, mais je dis rien du tout. Je vous juge silencieusement, c'est pas...
Silencieusement, c'est lourd ce silence. Bon, allez-y, enchaînez.
On pose souvent la question et du coup, elle paraît presque vaine, mais je l'attends quand même. L'apprentissage de la bouffe, de la saisonnalité, de la bonne bouffe de préférence, est-ce que ça ne devrait pas apparaître dans les programmes scolaires?
J'avais dit déjà à l'époque de François Hollande, donc c'est clairement. C'est-à-dire on nous apprend, moi je me souviens, je pliais du métal en technique, je sais pas quoi. On apprenait tous les chromosomes, tous les machins. Je dis pas que ça me sert pas. Hein
moi je faisais de la soudure.
Ouais, voilà, de la soudure, tout ça. Non, non, mais j'avais interpellé le président et j'en ai parlé avec certains conseillers du président actuel. Mais dès qu'on touche à l'éducation nationale, on a l'impression que c'est pardon de le dire, mais un peu le bordel à mettre en place. Et c'est clair que chaque enfant devrait connaître comment pousse une pomme de terre même, ou comment quand je montre à des enfants qui mangent une glace vanille sur le d'un bout d'un trottoir et qui sont en train de manger un je sais pas quoi, j'ai pas cité, ou une sauce tomate très connue, et qu'on leur dit voilà, bah alors là ça prend 6 mois à féconder en Polynésie, ensuite faut la sécher 6 mois au soleil, ensuite tout ça, ou alors une tomate, je leur montre que c'est une petite fleur jaune avant, ah ça c'est une tomate, enfin maintenant on est complètement déconnecté. Clairement, il faudrait 2 heures, mais pas des cours pratiques. On va pas mettre des cuisines à l'école, mais 2 heures de cours théoriques, ça pourrait être cool.
Jean Humbert, vous faites partie de ces chefs médiatiques dont la notoriété est montée en moins de temps qu'il n'en faut pour faire une mayonnaise. Une notoriété qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Où situez-vous la frontière entre les deux?
Moi, je suis toujours positif. Évidemment qu'il y a des inconvénients et qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire différemment, mais je suis pas du tout dans... J'ai trop d'énergie positive en moi et je l'instaure à toutes mes équipes pour regarder ce qui va mal. J'ai pas envie de penser à ce qui va mal. S'il y a quelqu'un qui me critique, ça me dérange pas et je l'aime quand même. Voilà.
Ah oui.
Non, mais franchement, ça me dérange pas. Après, au contraire, la négativité, j'ai souvent pensé que j'avais gagné Top Chef parce que mon papa se moquait de moi, il disait, tu vas monter de la mayonnaise dans la vie, et je me souviens, ça m'a souvent donné vachement d'énergie, en fait. Le côté négatif me donne presque plus d'énergie que le côté, si quelqu'un me critique, ça va me booster 2 fois plus, donc on continue à me critiquer, ça me dérange pas du tout.
Mais justement, un concours comme Top Chef, si c'était à refaire, vous lanceriez de la même manière? Dedans.
Avec mes équipes, on rigole en disant que je vais mettre une deuxième perruque, une moustache et que je vais me réinscrire pour le faire en sous-marin. Mais oui, parce que c'est un accélérateur de sensations. C'est-à-dire qu'en fait, si on est à minima compétiteur et sportif, quelque chose comme Top Chef, c'est exaltant parce qu'on devient meilleur que dans la vraie vie. Parce qu'en fait, Top Chef, qu'on te donne 1 heure pour te dire, voilà, tu fais un magret de canard, t'as 1 heure, si tu rates, tu rentres chez toi. Alors que donc si tu vas au bout, c'est que t'es resté 3 mois, que toutes les nuits t'étais en train, au lieu de dormir, ouvrir des livres de cuisine, tout ça. Donc ça te rend meilleur, c'est tout.
Je vous envie pour plusieurs raisons, Jean. D'abord parce que vous savez cuisiner, ce qui est loin d'être mon cas. Et ensuite parce que Robert De Niro a goûté votre cuisine. Alors ça donne quoi, Robert De Niro, quand il est content de ce qu'il a dans l'assiette? Vous pouvez me le faire?
Bien, Jean. Oui. Parle français, hein, Robert.
Ah oui.
Je me souviens d'un message vocal.
Dans l'extrait de Casino, oui.
Non, je me souviens d'un message vocal de 2 minutes qu'il m'avait laissé en me disant écoute, là, il était venu pour présenter Mala Vita, le film de Luc Besson. Il me dit écoute, j'arrive, mais là, on est un peu en retard, on est en Normandie, on rentre en voiture, tu sais. Ouais, je l'ai gardé, j'ai kiffé. C'est comme certains messages vocaux de Johnny que j'ai gardé, que j'adore.
Mais parce que vous faites De Niro quand vous parlez De Niro, vous avez la tête comme ça.
Oui, parce qu'il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup de Niro, mais il m'y raconte des histoires très sympas, mais qui sont secrètes, bien sûr.
Bien sûr.
Vous travaillez beaucoup aux États-Unis. Est-ce qu'on attend là-bas la même chose de votre cuisine qu'ici?
Non. Notamment à Miami, là c'est beaucoup plus pop, j'ai envie de dire, très coloré, très fun. Les gens en fait aux États-Unis sont habitués un peu comme dans un supermarché à avoir tout. C'est-à-dire qu'ils veulent sur la carte un sushi, une pizza et une blanquette de veau. Mais on a la blanquette de veau de mamie à Miami par exemple. Mais après j'essaie d'instaurer quand même de l'authenticité. Là on vient d'ouvrir, alors ça fait très bling à Saint-Barth, même si c'est une destination qui reste authentique à mes yeux. Et là on vient d'ouvrir il y a 15 jours et en fait j'ai travaillé que avec des producteurs locaux, avec les pêcheurs. On ne travaille que des fruits de là-bas, donc on peut ramener d'authenticité même dans des destinations qui peuvent paraître chaudes.
Je finis avec Robert De Niro. Je suis un peu obsessionnel. Quand il n'est pas content du plat, il fait quoi, Robert De Niro?
Il sort son gun et... Non, il mange pas de palourdes, par exemple.
Ah bon?
Ouais. Il m'avait dit... je sais pas, c'est comme ça.
Ok.
Voilà, c'est un truc. Non, il s'énerve pas. Il appelle pas Joe Pesci pour s'énerver. Mais non, il est toujours très content. Il est très sensible et humain. On se demande même si lui-même sait qu'il est une légende. Il y a un côté vraiment simple, mais même chez les autres artistes. Hein.
Donc il n'y a pas un You fuck my.
Ah, il n'y a pas de fuck. Non, il n'y a pas fuck my.
You fuck my céleri remoulade.
Oui, You fuck my céleri remoulade. Merci, mamie, pour les recettes. C'est le titre de votre livre, Jean Humbert, et 7 euros à retrouver aux éditions du Chêne. Vous savez faire plein de choses. Est-ce que vous savez faire ça?
Jamais essayé,
j'essaie. Vas-y.
Mais non,
c'est un petit pop de pas grand chose. Ça.
Ouais, bon, c'est pas grand chose. Mais tu sais pas faire le céleri non plus.
Non, je sais pas faire le céleri. C'est pour lancer les pop news.
Ça s'est passé ce week-end dans la mythique émission de la chaîne NBC, dans un sketch se déroulant à la soi-disant cafétéria de l'OTAN. C'était dans le Saturday Night Live. Jimmy Fallon et Justin Trudeau, James Corden, Boris Johnson et Paul Rudd et...
Bonjour.
Oui, c'était Emmanuel Macron. Les trois jouent les cool kids, gros bras. Hein. Comme on est à l'OTAN, ils sont bientôt rejoints par Alec Baldwin, reprenant son rôle de président orange.
Hey guys, is this seat taken?
Sorry, actually it is.
Yes, we would love to see you talk and chew at the same time, but we promised this seat to a friend.
Well, I'm Boris's friend, right Boris? Don't make this harder than it already is, old man.
Bagarre dans la cafétéria de l'OTAN, on vous met l'intégralité de la vidéo sur la page de Pop 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 sur franceinter.fr.
C'est en tant que parrain que je m'adresse à vous aujourd'hui. La FNAC et France Inter, par ma voix, ont le plaisir de dévoiler aujourd'hui les 6 bandes dessinées finalistes du prix BD FNAC France Inter 2020. Ces albums ont été choisis par les 30 membres du jury grand public du prix dans une sélection initiale de 20 titres coup de cœur des libraires FNAC sur l'année 2019. Et les 6 finalistes sont Les Indes Fourbes d'Alain Hérol et Juanjo Garnido, Dans la tête de Sherlock Holmes de Benoît Dahon et Cyril Lieron, Le Château des Animaux, Miss Bangalore de Xavier Dorisson et Félix Delep, In Waves d'Eji Djungo, Jusqu'au dernier de Jérôme Félix et Paul Gastine, et Le Patient de Timothée Leboucher. Le nom du prix BD FNAC France Inter sera révélé le jeudi 9 janvier 2020 à 16h en direct dans Pop Pop Pop.
Et Diana Prince est de retour. Et Diana Prince, c'est Wonder Woman, en fait, dans un nouveau film intitulé Wonder Woman 1984. Devinez quand il se déroule. Oui, parce qu'un indice se cache dans le titre et dans la musique qui accompagne la première bande-annonce.
Imaginez que tous vos désirs soient enfin exaucés.
Je vais sauver des gens. Mais toi, tu sauves le monde. Le monde a besoin de toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire.
Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins avec Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine et Pedro Pascal. Ce sera le 3 juin dans les cinémas.
France Inter. Popopa. Antoine Decaune.
Yes, it's me.
Robert De Niro?
Non, Alec Baldwin en Trump.
Ah.
Bon, alors là, celle-là était facile pourtant. Bon, merci Charline. Et je me permets d'ajouter une pop news des plus brûlantes. Les nominations de Golden Globes viennent d'être annoncées. Catégorie meilleur film étranger, on trouve 2 Français. Les Misérables de Lajli et Portrait de jeune fille en feu de Céline Sciamma. Jean Humbert, vous restez avec nous avant d'accueillir un gastrono-geek dans la suite de Pop Pop Pop. On va écouter un extrait de la BO de votre restaurant avec le client de la 12, Pharrell Williams, et son groupe Nerd She Wants to Move.
Shake it up.
see. Move, you have to move. But you're hogging her, you're guarding her. She wants to move, she wants to move. But you're hogging her, you're guarding her. Beat it, mister. Look at your girl, she loves it. I can see it in her eyes, she.
Nerd, she wants to move. Elle veut bouger, hein, si je ne m'abuse. Dites-moi si je me trompe, Charline. Cet extrait de l'album éponyme. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Jean Imbert et vient de nous rejoindre un gastrono-geek. Bonjour Thibaut Villanova.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce studio Thibaut Villanova, vous aussi chef cuisinier et geek et spécialisé dans la pop food. C'est quoi la pop food, Charline, s'il vous plaît?
Des recettes de cuisine tirées de mythes de la pop culture. Thibaut a écrit des livres de recettes aussi bien tirés de Star Wars que d'Astérix, que de Disney, que de Dragon Ball Z, comme de jeux vidéo. Alors comment et quand vous sont venus l'idée, enfin, est venue l'idée d'associer les deux,
en fait? Alors c'est en 2014, j'ai créé le concept gastronomique. Je bossais en restauration et en même temps je faisais beaucoup d'événementiels autour de lancement de jeux vidéo et tout ça. J'étais pas mal confronté à des gens qui considéraient que les geeks c'était uniquement des mecs qui mangeaient chips, pizza, coca et qui ne bronzaient qu'à la...
aussi, hein.
Je suis pas arrivé avec ce corps d'athlète que vous voyez là comme ça. Non mais voilà, on n'est pas éclairé à la lumière de nos écrans la nuit en jouant à World of Warcraft et voilà. Et en fait j'avais envie qu'on aille plus loin dans les concepts qu'on proposait à nos clients, et j'avais envie qu'on réfléchisse à vraiment poursuivre l'immersion. Moi aussi, je suis dingue de Top Chef. Je rate très peu de shows culinaires, et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. Et je me suis rendu compte, en creusant un peu les références dans lesquelles moi j'avais baigné, celles dans lesquelles j'évoluais au quotidien, qu'il y avait énormément de gastronomie partout, et que les geeks ou les passionnés de culture de l'imaginaire, c'était les gens pour lesquels on cuisinait pas et auxquels on parlait pas. Et du coup, m'est venue l'idée d'utiliser la passion. Moi, je suis autodidacte. Alors, ça m'a fait super plaisir quand vous m'avez décrit comme un chef cuisinier. Je suis assis à côté d'un chef cuisinier. Moi, je suis cuisinier. Je dirige pas de brigade. J'ai pas le stress quotidien, le bouillon des services et compagnie. Et pour avoir fait du traiteur 2 ans, je sais le sport que c'est. Moi, je regarde des films, je joue à des jeux vidéo et je me demande comment faire pour que les gens qui font la même chose que moi puissent en manger.
Jean, vous êtes gastronome et geek aussi ou pas?
Un peu, enfin, pas geek. Moi, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, pour être honnête.
C'est pas grave.
Non, vraiment.
mais ça couvre un spectre très large.
Les livres sur Dragon Ball, Star Wars ou Disney, là, en 2 secondes, j'ai feuilleté et je trouve ça top, franchement.
C'est cool, merci beaucoup.
Thibaut, sur quelle base vous élaborez vos recettes? Parce que autant la recette officielle du Glooby Boulga, on l'a, de la confiture de fraises, du chocolat râpé, de la banane.
Je l'ai pas faite, celle-là.
Et de la saucisse tiède mais crue, mais alors. Celle de la potion de bouclier de Fortnite, ça doit pas être super facile à sourcer.
Alors c'est pas facile à sourcer. Il y a deux manières de voir la conception des recettes quand on s'inspire d'une grande référence. Soit elle est définie par l'auteur, le créateur, le réalisateur. On en a on nous en donne les qualités organoleptiques, c'est-à-dire on sait ce que ça a comme goût, ce que ça a comme odeur, ce que ça a comme couleur et compagnie. Et puis ensuite, moi je me repose sur l'univers étendu. Est-ce que les mecs chassent? Est-ce qu'ils cultivent des trucs pour créer la recette? La potion de bouclier de Fortnite, très clairement, c'est ce qu'on appelle un hold-up market. C'est-à-dire que j'allais pas le mettre dans le livre. C'est une potion énergisante qui rend des points de vie et qui protège en fait les joueurs dans le jeu. Donc on va essayer d'utiliser des ingrédients qui vont être un peu énergisants, un peu boostants, un peu cool. Puis comme c'était une recette faite dans un livre pour enfants, on va pas mettre trop de trucs pas top. Et voilà.
C'est
non.
Ça.
Moi j'essaie vraiment
pas
de
le truc qui
de
donne
prolonger.
Des ailes.
Ouais voilà. J'essaie vraiment de prolonger l'immersion avec la cuisine.
Vous venez nous parler des recettes légendaires de Dragon Ball, votre nouvel ouvrage édité chez Glénat. Dragon Ball, soit la plus grande référence manga de tous les temps et des recettes genre le délicieux curry de Chichi, ouais, la fondue au poisson de Lunch ou les dangereux tentacules. En fait, c'est un livre de cuisine japonaise déguisé.
C'est un livre de cuisine asiatique déguisé, parce qu'il faut savoir qu'Akira Toriyama, qui est donc qui est donc Dieu qui a créé Dragon Ball, pour nous les geeks, car il est très haut. Il est très haut. Et pour moi, il est avec Shigeru Miyamoto, le gars qui a créé Mario et Zelda et Walt Disney. On est là.
Ah ouais.
Et George Lucas, voilà. C'est la table de 4 à laquelle j'aimerais bien, pour laquelle je cuisinerais bien. En fait, c'est un livre de cuisine asiatique parce que Toriyama, il est fan de cuisine asiatique, pas que japonaise. Donc en fait, beaucoup du public qui est tombé sur le livre s'est demandé si on allait faire du sushi, du curry et des omurais. Et en fait, il y a plein d'autres choses à faire. On fait du pot-au-feu chinois, on fait du shabu-shabu, on fait des tentacules grillés, on fait pas mal d'onigiri. Il y a beaucoup de recettes japonaises, beaucoup de recettes d'inspiration chinoise aussi. Dragon Ball, c'est assez évident. En fait, Goku, enfant, adulte ou après, sous-entendu mort, parce que le gars continue à manger même mort, c'est un gourmand et c'est un type qui ne peut y arriver qu'en mangeant. Donc nous, on avait un choix.
Vous avez bien entendu, hein, le gars continue à manger même mort.
Oui, mais oui.
Vous en continuez.
Oui.
Non, mais c'est vrai, c'est sa seule faiblesse à Goku, en fait.
Enfant, c'est il prend très peu des trempes et il prend des trempes quand il a vraiment le ventre vide, parce qu'il n'arrive plus à réunir son énergie et à se battre. Tandis que quand il a mangé un bon rôti juste avant, il n'y a aucun problème.
Mais c'est vrai qu'il y a une place très importante pour la bouffe dans Dragon Ball. Dans les mangas de manière générale, mais dans celui-là en particulier.
Les Japonais, de manière générale et sans aucun amalgame, c'est vrai, ont une passion pour ça. Nous, on a un lien entre la cuisine française et la cuisine japonaise de par nos chefs, de par la culture qu'on partage. Et la culture à la gastronomie, et c'est vrai que ce soit dans One Piece, une grande référence manga, ou encore dans Naruto, ou dans Dragon Ball, c'est assez évident, il y a beaucoup de plats qui sont reconnaissables, connus. Naruto, il est fan de ramen, des ramen tonkotsu, donc c'est pareil, j'ai proposé la recette traditionnelle, là je réinvente rien, hein. Je vulgarise juste la technique pour que les gens puissent la faire chez eux. C'est assez présent, c'est assez facile finalement de trouver la source.
Jean Humbert, vous nous écoutez avec attention. Vous avez l'impression qu'on s'exprime dans une langue étrangère.
Non,
vous êtes né dans cette génération Dragon Ball quand même, des années 80.
Oui, je regardais un petit peu. Mais c'est vrai que je regardais. Mais là, j'étais en train de me dire, ce serait sympa qu'ils viennent manger chez mamie Dragon Ball pour voir le choc des cultures un peu. Mais parce que là, dans deux mondes. Ou alors, je regardais la BD Tintin que j'avais à côté. Je me demande si ça peut être fait en.
Alors moi, j'ai fait Astérix. Tintin, c'est assez compliqué. Astérix, c'est pareil, c'est très évident. Ça mange tout le temps, pas que du sanglier finalement, mais on pourrait. Tintin. On s'était posé la question, on a préféré Astérix pour des raisons.
C'est moins geek quand même, Tintin, finalement.
En fait, la pop culture française, c'est pas geek. C'est de la pop culture française. C'est très.
Expliquez à Jean, je vous en supplie.
Mais non, mais c'est d'une complexité rare. En fait, c'est-à-dire que ce qui est geek, c'est très difficile à définir. Quand vous dites, moi, j'ai pas joué aux jeux vidéo, ok, donc il y a juste une case que vous avez pas coché. Mais par contre, si vous avez regardé Star Wars, Retour vers le futur, j'en sais rien, tout ça, on a des trucs en commun. Et du coup, dans Star Wars, ils boivent des trucs, ils mangent des trucs. Voilà. Tintin, je suis moins expert de Tintin que je suis d'Astérix. J'ai pas de recette qui me vient en tête. Colombo, on sait. Même Hercule Poirot, c'est de la pop culture, c'est du quotidien de tout le monde. C'est populaire pour tout le monde, c'est dans les téloches de tout le monde, tous les étés. Et Hercule Poirot, c'est un type qui veut deux œufs coqs qui font la même taille, le même poids, la même température. Et si on les lui sert pas comme ça, il les mange pas.
Du fou.
Et voilà. Ouais. Et donc, c'est au final, non, il y a pas. Je suis désolé. Je dois pas.
C'est vrai que dans plein de séries passées à la postérité, dans plein de films, dans plein d'animés, il y a la tarte aux cerises, Twin Peaks.
Mais totalement. Twin Peaks, c'est la cherry pie devant laquelle il est capable de totalement arrêter de faire ce qu'il fait juste pour remercier quelqu'un. Il y a ce week-end, je cuisinais en mode Breaking Bad avec Los Pollos Hermanos, le poulet frit comme ils font dans le sud des États-Unis. Voilà, on est amené à cuisiner plein de choses. Tant qu'on est dans l'ambiance, c'est cool.
Thibaut ne lancez pas mamie là-dessus, elle est intarissable. Bien, vous avez également publié les recettes enchantées de Disney chez Hachette en octobre dernier, des recettes que Jean Humbert a eu la chance de proposer pour de vrai l'an dernier à Disneyland.
J'ai vu ça.
Ça veut dire quoi, que vous êtes tombés tous les deux dedans quand vous étiez petit en fait?
C'est difficile de pas tomber dans Disney, d'autant que moi, mon gamin qui a 2 ans, il va grandir dans une industrie du cinéma totalement rachetée par Disney. Donc on est dedans. Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi avec ces films d'animation là. C'est pareil. Ça a été un livre assez évident. Dragon Ball et Disney cette année, on a travaillé sur des licences. Ça sort cette année, mais ça fait des années qu'on travaille dessus parce que faut convaincre les créateurs et les porteurs et les ayants droit qu'on est expert, qu'on connaît, puis qu'en plus on va essayer de traduire ça correctement. Disney, c'est easy, ça cuisine tout le temps. Mais vraiment, c'est-à-dire que je fais 40 recettes, on va de Blanche-Neige à Toy Story, ça mange. tout le temps.
Votre recette préférée, Jean, chez Disney?
Oh, la ratatouille, quand même, même si c'est pas très original. Évidemment. Non, j'aime bien le bouillon de la Belle et la Bête. On avait démarré avec les cheveux de réponse, où on avait fait des poireaux frits, où les gens se les coupaient eux-mêmes.
c'est drôle.
On avait fait des trucs très spécifiques, mais c'était génial. Quand Disney m'avait proposé le projet, je me suis dit, faut aller à fond, quoi.
Il faut jouer le jeu à fond. Nous, c'est vrai qu'on avait la base graphique, c'est-à-dire que, on fait du livre. Donc, il faut, mon travail avec les photos, là, forcément, les éditeurs n'en voient rien et ils peuvent le voir facilement. Mais du coup, mon travail avec les photos, c'est de faire en sorte que quand on voit la photo, on se dise, OK, donc là, je suis dans le truc. Là, je suis assis à côté de Belle quand elle est en train de manger son soufflet. Il y a Lumière qui est en train de me faire, c'est la fête, et je vois passer le banquet. Voilà, c'est...
Bon, vous l'avez compris, nous avons affaire à deux passionnés, Jean Humbert, Thibaut Villanova. Mais malheureusement, nous approchons de la fin de cette émission. Nous allons la terminer en musique avec, tiens, un petit Johnny, ça vous dirait ça?
Oui.
Hein? Allez. Un petit Johnny de derrière les fagots. Cheveux longs, idées courtes, c'est parti.
Si M. Kennedy aujourd'hui revenait, ou si M. Gandhi soudain ressuscitait, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter da 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 dam dam da 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 dam dam. Et surtout, avant tout, d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro, je veux la liberté, assis sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé, sinon combien de larmes et de sang évités, da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam. Et bien sûr, leurs cheveux n'étaient pas assez longs. Écrire sur son blouson, la guerre doit s'arrêter. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, les bonzes du Vietnam n'y ont jamais pensé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est partir en fumée. Da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam. Et bien sûr, leurs cheveux ne sont pas assez longs. Crier, c'est une honte. Des hommes meurent de faim, assis sur son derrière, avec les bras croisés. Est-ce la solution? Est-ce le bon moyen? En tout cas, les hindous devront s'en contenter. Da-dum-da-dam-dam, da-dum-da-dam-dam. Avant de trouver mieux, leurs cheveux seront longs. Si les mots suffisaient pour tout réaliser, tout en restant assis, avec les bras croisés, je sais que dans une cage, je serai enfermé. Mais c'est une autre histoire que de m'y faire entrer.
Ah, dam-dam-dam-dam-dam, mon Johnny. Cheveux longs, idées courtes, c'était en 66 sur l'album Génération Perdue. Et aujourd'hui dans Pop 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 sur France Inter. Voilà, merci Jean Humbert. Je rappelle que Merci Mamie pour les recettes, c'est édité aux éditions du Chêne et c'est recommandé par Pop Pop Pop, tout comme vos recettes légendaires de Dragon Ball Thibaut Villanova qui sont éditées chez Glénat. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Johanna Gabrich, ça vous va Gabrich? Gabrich. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop Pop Pop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Rémi, le ratatouille à la fin de ses tutos culinaires, abonnez-vous à notre podcast.
Non, ça c'est Stuart Little, arrêtez de mentir aux gens. Ça s'entend.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615, pop 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 sur Instagram et Twitter.